avec efficacité aussi, que ce ne soit pas seulement une parole qui rentre dans une oreille et qui sort par une autre. Et que nous puissions vraiment être touchés aujourd'hui par la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci de ce temps que nous avons consacré à sonder ta parole. Seigneur, merci parce que tu as un message à nous transmettre encore ce matin. Que tu fasses silence, Seigneur, en nous, pour que nous puissions vraiment être attentifs à ce que tu veux nous dire. Et que cette parole, Seigneur, puisse produire de l'effet dans nos vies, dans nos cœurs, et nous pousse aussi à agir, à y répondre efficacement, à pouvoir appliquer, Seigneur, tout cela dans notre vie de tous les jours. Parle, Seigneur. Tes serviteurs, tes servantes sont prêts à t'écouter aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose une lecture qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. À Thessaloniciens, donc, au chapitre 4. Et je vous invite à lire avec moi les 12 premiers versets dans la version Semeur. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 1, verset 1, pardon, à 12. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit, et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous abonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Voilà jusque-là notre lecture de ce matin. Alors, quelques petits mots de contexte. Donc, il s'agit de la lettre de Paul, la première lettre, la première épître aux Thessaloniciens. Et l'église de Thessalonique avait été fondée par l'apôtre Paul, justement, lors de un de ses voyages missionnaires, le deuxième voyage missionnaire. On peut voir ça dans Actes chapitre 17. Et donc, Paul et Silas étaient dans cette ville, on estime entre l'année 49 ou 50. Ils ne sont pas restés longtemps dans cette ville de Thessalonique, mais ils sont restés un temps assez suffisant pour prêcher l'Évangile et pour voir la conversion de plusieurs païens et de certains juifs. On peut voir ça dans Actes chapitre 17, verset 4. Malheureusement, Paul et Silas, parce que Silas donc a accompagné Paul, menacés qu'ils étaient par des juifs qui étaient hostiles à l'annonce de l'Évangile, ils ont dû partir précipitamment. Mais la parole était déjà semée et l'église était déjà née dans cette ville. L'église était déjà en place. C'est une église qui connaissait les tribulations sous forme de harcèlement, voire de persécution. notamment de la part des communautés juives de l'époque. Et peut-être qu'à cause de cette hostilité ambiante, eh bien, l'Église était influencée par une certaine théologie selon laquelle le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le retour de Jésus, était déjà là. Et donc, il régnait une certaine effervescence, agitation eschatologique, hein, et donc à la perspective de cette réalité comme quoi Jésus était déjà revenu. Et cela a poussé l'apôtre à dispenser dans ses lettres des compléments d'enseignement sur la fin des temps, et notamment dans 1 Thessaloniciens, il réconforte les chrétiens face à la mort de leurs proches. Mais il y avait aussi une autre réalité dans cette Église. Et c'est de cette réalité-là que nous avons parlé ce matin, à savoir une certaine pression de l'environnement, qui était un environnement païen, avec une culture païenne. Et cette culture païenne était entre autres caractérisée par un penchant pour l'immoralité. Et quand on parle d'immoralité, il faut être clair dans ce passage, il s'agit d'immoralité sexuelle. Le fait est donc qu'il y avait certains membres de l'église de Thessalonique qui, tout en étant chrétiens, tout en ayant rejeté les idoles pour se tourner vers Dieu, ils étaient menacés par cette influence de l'immoralité ambiante, avaient peut-être une tendance à un certain relâchement dans ce domaine. Et d'ailleurs, quand on a lu ce passage dans 1 Thessaloniciens, il y a Paul qui dit, il parle de ce domaine précis, et dans ce domaine-là, c'est le domaine de l'immoralité sexuelle. Et c'était un problème donc sérieux, qui amènera Paul donc à insister sur la nécessité de mener une vie sainte et d'avoir un comportement qui plaît au Seigneur, en rappelant la volonté de Dieu. On l'a lu tout à l'heure, ce que Dieu veut, c'est-à-dire quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous menez une vie sainte. Et donc le titre du message de ce matin, c'est « Le comportement qui plaît au Seigneur ». Un comportement qui plaît à Dieu. Et on pourrait souligner dans ce texte qu'on a lu, trois responsabilités du chrétien. La première responsabilité, c'est une responsabilité morale envers Dieu. Vous savez, pendant son ministère, l'apôtre Paul, il constatait la présence justement de pratiques immorales dans certaines églises, et notamment l'église de Corinthe, dans laquelle il dénonçait des cas d'inceste, notamment, quelque chose de grave. Et il ne manquait pas de condamner sévèrement cette situation, en étant vraiment clair, en étant catégorique. Qu'est-ce qu'il disait ? 1 Corinthiens 6, 9 à 10, il disait « Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. » Clair. Et même si l'église de Thessalonique n'avait pas forcément le même profil que cette église de Corinthe, elle évoluait quand même dans ce même environnement, un environnement païen. Il faut se rappeler que Thessalonique se trouve en Grèce. Je crois qu'elle est une ville qui existe toujours. Hein. Et à l'époque, la culture gréco-romaine n'était pas vraiment un modèle en termes d'éthique sexuelle. Le corps était considéré juste comme une simple enveloppe charnelle, physique, méprisable. Et les gens n'avaient aucun scrupule à s'adonner à des comportements licencieux afin d'assouvir leurs désirs charnels. Ils considéraient les actes sexuels, même les actes sexuels illicites, au même titre que le manger et le boire. On arrivait vraiment à cette situation-là, à l'époque. Et les chrétiens de Thessalonique, donc, comme je le disais en introduction, et notamment ceux qui étaient d'origine païenne, étaient donc marqués par cette culture, cette ambiance malsaine de l'inconduite sur le plan sexuel. Il y avait donc clairement un risque réel de retomber dans ces pratiques, et c'était peut-être déjà le cas chez quelques-uns dans cette église. En tout cas, cette situation donc pousse l'apôtre Paul à réagir. Il félicite d'abord les Thessaloniciens, hein, au chapitre 1, il les félicite pour leur volonté d'obéir et de plaire à Dieu, mais il les exhorte à faire mieux encore. à progresser à cause de leur union avec Jésus. Alors, nous avons évoqué au début de ce message que les Thessaloniciens attendaient avec impatience le retour de Jésus, et certains pensaient même que Jésus était déjà là. Et pour Paul, c'était une raison de plus pour les exhorter à être spirituellement prêts à recevoir le Seigneur quand il reviendra. Et d'ailleurs, quelques versets auparavant, avant ce passage qu'on a vu, dans 1 Thessaloniciens 3:13, voici ce que dit Paul. Il dit « Qu'il a permis ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. » Donc, en tant que chrétien, et a fortiori, dans l'attente du retour du Seigneur Jésus, notre vocation est de rechercher la sainteté, comme il a été rappelé tout à l'heure lors de l'introduction qui a été faite par Jérémie. Rechercher la sainteté, c'est-à-dire faire tout notre possible pour nous éloigner et nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alors parfois, le chrétien, j'allais dire le chrétien lambda, il a tendance à penser que la sainteté, c'est une utopie, un état moral impossible à atteindre, et donc il est inutile d'en faire une priorité dans notre vie de chrétien. On a tendance à penser que la sainteté, c'est pour les pasteurs, les prêtres, etc. Or, la sanctification, ce n'est pas une simple option dans la vie du chrétien, mais clairement la volonté de Dieu. Nous avons lu dans le chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Dans certaines versions, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Alors, certes, le chrétien a déjà un statut légal de saint, S-A-I-N-T, puisqu'il a été déclaré juste devant Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. Il a donc procuré le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. Il a été déclaré juste. Et on voit d'ailleurs dans la plupart des épîtres que, notamment ceux de Paul, Paul qualifie les chrétiens de saints, aux saints qui sont en telle église. Donc il n'y a aucune erreur théologique si par exemple je fais précéder votre nom par saint. Si je dis Saint-Pierre, ça ne devrait pas être choquant, Saint-Michaël ou Saint-Hugo, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait plus, ça ne se fait pas. Mais pas d'erreur théologique. Il y a de cela une vingtaine d'années, un médecin pratiquant en France avait été rayé de l'Ordre national des médecins, parce qu'il pratiquait des œuvres, des manœuvres frauduleuses vis-à-vis du fisc. Et il n'y a pas si longtemps non plus, un autre a été radié pour avoir abusé de ses patientes. Hein. Déontologiquement, c'était quelque chose qui était inacceptable dans la société. Et ce sont pourtant des médecins qui ont obtenu leur diplôme, qui ont fait leurs études, et qui avaient bien un statut légal de praticien, de médecin, mais qui ont été disqualifiés pour avoir fait honte à leur métier et honte à leur vocation. Et à l'instar d'un médecin consciencieux, le chrétien ne doit pas se contenter de son statut légal de saint, mais faire aussi honneur à sa vocation de chrétien. Faire honneur à son Dieu en faisant de la quête de la sainteté sa priorité, son cheval de bataille, sous peine d'être disqualifié. Nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, est un travail de longue haleine qui est le fruit d'une collaboration active entre notre volonté et l'action de l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit a pour but d'inculquer dans chaque chrétien la pratique de la sainteté. Donc, s'il y a quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'a pas dans le fond de son cœur une aspiration à mener une vie sainte qui plaise à Dieu, ben, il y a peut-être des questions à se poser pour savoir honnêtement si sa foi est authentique. Tout chrétien devrait avoir en lui cette aspiration à mener une vie sainte. Alors aujourd'hui, force est de constater que le monde et ses pratiques ont une grande influence aussi dans les églises, dans beaucoup d'églises. L'éthique est mise à mal. Le péché est relativisé. J'allais même dire toléré. Et on invoque diverses excuses en disant Voilà, on doit vivre avec l'air du temps. On doit nous adapter au contexte moderne. L'Église ne doit pas trop se mettre en marge de la société, sous peine d'être qualifiée de rétrograde. Il y en a même qui affirment que certaines pratiques, par exemple comme le concubinage, peuvent être excusées ou tolérées pour des raisons économiques. Un pasteur qui reprochait à une personne chrétienne sa situation matrimoniale irrégulière, ben recevait cette réponse: « Mais pasteur, c'est pas de ma faute. C'est parce que je suis obligé de partager le loyer, j'ai pas assez d'argent. » Et à cause de ça, on vivait maritalement, sans être marié. Mais est-ce une raison pour faire comme tout le monde? Est-ce une raison pour faire comme les gens qui ne connaissent pas Dieu? Comme les païens, comme dit la parole. Est-il normal qu'un chrétien ne trouve aucun mal, par exemple, à avoir des relations sexuelles avant le mariage? Ou à vivre en concubinage sans être marié? Ou s'adonner à des lectures, des visionnages malsains, etc., etc.? Il n'y a pas si longtemps, nous avions eu une réunion du groupe de jeunes, peut-être que certains qui sont là s'en souviennent. Et le thème, c'était « Vivre à contre-courant ». Et on avait visionné à un moment donné un reportage qui a été un extrait d'une émission télévisée sur des relations sexuelles avant le mariage. Et il y avait des témoignages d'un couple qui était fiancé, qui avait décidé de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et un autre jeune homme aussi qui avait témoigné. Mais je peux vous dire qu'ils avaient l'impression d'être une cible dans un stand de tir par rapport à toutes les personnes qui étaient là, parce que c'était une émission télévisée, vous savez, genre... C'est mon choix, voilà, c'est ça. Et ils recevaient des colibés et de la part même de l'animatrice. On avait mal à leur place, tellement ils... Voilà. Mais ils ont tenu bon. Et il se trouve que c'est des personnes qui avaient la foi, et qui invoquaient d'ailleurs leur foi chrétienne pour cela. Et ce qui montre que, voilà, le monde influence même l'Église. Certes, nul chrétien n'est parfait, hein, on dira. Voilà, effectivement, nous sommes encore dans un monde qui est marqué par le péché. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et qui peut se targuer d'ailleurs de vivre déjà une vie parfaite, sans péché? Personne. Moi qui vous parle aujourd'hui, Dieu m'est témoin que je ne peux pas me vanter d'avoir toujours été irréprochable sur le plan moral. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais simplement, voilà. Mais ce n'est pas une raison pour se complaire dans des situations qui sont manifestement contraires à la volonté de Dieu. Il faut réagir. Car l'immoralité est condamnée par la Bible et condamnée par Dieu lui-même. Ce que Dieu veut, on l'a vu tout à l'heure, c'est que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est un passage qui me paraît quand même bien clair. Même si on le lit avec plusieurs lunettes. Et nous avons donc cette première responsabilité devant Dieu, qui est une responsabilité morale, celle de relever le défi de la pureté morale personnelle, rechercher jour après jour la sanctification, sous peine d'être comparé avec des païens, c'est-à-dire avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui n'ont ni foi ni loi. Et comment relever ce défi? En laissant le Saint-Esprit poursuivre son œuvre de transformation continue dans nos cœurs. Et en adaptant notre volonté par rapport à ça. C'est pour ça que je disais que c'est une collaboration active entre notre volonté et le Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir, si nous n'avons pas cette aspiration à le faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, 2. Mais nous avons aussi une deuxième responsabilité. Responsabilité envers nos frères et sœurs dans la foi. Par exemple, on voit dans le chapitre 4, verset 6, qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Quand Paul parle de ce domaine, c'est ce que je vous avais dit en début de ce message, c'est le domaine de l'immoralité. En fait, la pureté morale et l'amour fraternel sont liés. Parce que si un chrétien s'adonne, par exemple, à des pratiques sexuelles condamnables, il y a forcément des risques de dommages collatéraux envers quelqu'un. Un frère, une sœur, peut être ainsi victime directe ou indirecte d'un acte illicite. Ne serait-ce que l'adultère, par exemple. Hein? Aujourd'hui, hélas, beaucoup de couples mariés se séparent. Certains divorcent après plus de 30 ans de mariage, d'autres après moins d'un an de mariage. Et on estime qu'en France, le taux de divorce, ce qu'on appelle aussi le taux de divorcialité, serait aujourd'hui de 55,5%. Et en Ile-de-France, encore plus supérieur à ça. Et la première cause, c'est l'infidélité, l'adultère. Et après un divorce, vient souvent un bouleversement total, sur le plan, sur tous les plans, le plan matériel, hein, pour certains, mais aussi sur le plan psychologique, spirituel, émotionnel, relationnel. Les conjoints sont trahis, il y a une blessure, les familles sont choquées, les enfants sont traumatisés, déchirés entre les parents. C'est une véritable souffrance, parfois silencieuse chez certains, mais non moins dévastatrice. Ce qui montre que l'immoralité cause forcément du tort aux autres. L'immoralité cause forcément ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Mais d'une manière générale, toute situation péché d'un membre du corps de Christ affecte l'ensemble du corps de Christ. Parce que nous sommes tous membres les uns des autres, n'est-ce pas? Et au verset 6, donc Paul encourage indirectement à réparer les torts au niveau de celles et ceux qui ont été blessés par un comportement moral coupable, en sachant que Dieu, c'est un Dieu qui jugera les débauchés, les adultères. L'immoralité sexuelle est un péché contre Dieu, un péché contre son propre corps, mais aussi un péché contre les autres. Il est nécessaire d'agir. Si nous savons que par nos actes, par nos activités, par ce que nous avons fait, nous avons blessé quelqu'un, des enfants, des grandes personnes, demandez pardon. Le pardon communautaire, c'est un des aspects de l'amour fraternel. Pas d'amour sans pardon, pas de pardon sans amour. Si nous sommes chrétiens, nous aimons nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Et si nous aimons nos frères et sœurs, nous aurons à cœur de leur demander pardon si nous leur avons fait du tort, même indirectement. Et l'immoralité sexuelle cause du tort. Troisième responsabilité, la responsabilité envers les non-croyants. Versets 11 et 12, voici ce que dit Paul. « Mettez un point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de vos propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez ainsi de personne. » Nous avons dans le point précédent parlé de l'importance de pratiquer cet amour fraternel. Et le Seigneur Jésus disait aussi que c'est à cet amour que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Hein. Vous vous souvenez peut-être de ce passage. Ce qui est important à savoir, c'est que quand quelqu'un se dit chrétien, je suppose qu'il y a un certain nombre d'entre nous ce matin, hein, dans cette salle, c'est quelqu'un qui sera observé, qui sera surveillé par son entourage. Notre conduite donc en tant que chrétien est donc essentielle, importante. Elle reflète ce que nous sommes en réalité à l'intérieur. Et Paul, quand il donnait ses recommandations à ses lecteurs, hein, ce n'était pas une leçon de morale gratuite du haut de sa chair, mais il était lui-même un exemple. Il le disait dans le verset 1, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous conduisez déjà ainsi. » Alors que se passait-il dans l'église de Thessalonique? Donc je disais qu'il pensait que le jour du Seigneur était imminent, immédiat, ou même qu'il était déjà revenu. Et à cause de cette lacune, on va dire ce manque d'enseignement, donc il y avait deux attitudes que Paul reprochait. La première, c'était que les Thessaloniciens étaient un peu excités, outre mesure, par cette perspective que le Seigneur était déjà là. Donc il y avait comme une espèce d'ébullition, d'effervescence, hein, on peut éventuellement comprendre ça, hein. On se met un peu à leur place, supposant que dans l'église de Palaiso, on est persuadé que le Seigneur est arrivé, qu'il est là, ça va être l'agitation. Peut-être la crainte pour certains, la joie, hein, mais certainement on ne serait pas bien calme aujourd'hui, ce matin, ce dimanche. Hein. Et face à cela, Paul exhorte les Thessaloniciens à se calmer. En effet, un chrétien qui donne une image de quelqu'un qui est toujours excité, qui donne l'impression d'être illuminé, d'avoir un zèle fanatique, ça n'a pas toujours un effet très positif chez le non-chrétien. Bien sûr, on peut être zélé pour l'évangile. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, Paul nous demande de mettre comme chaussure le zèle de l'évangile. Cependant, il y a une différence entre le zèle pour annoncer la bonne nouvelle et un état d'agitation permanente proche du désordre. Et c'était ce qui arrive un peu chez les Thessaloniciens. Et ça peut devenir finalement contre-productif, un mauvais témoignage. Alors dans notre texte de ce matin, Paul il a une structure de pensée précise. Il fait la connexion entre le fait de rechercher la pureté morale et d'avoir une attitude paisible. Son raisonnement c'est le suivant. Un chrétien qui s'efforce d'être en paix avec lui-même et avec Dieu, qui recherche donc la sanctification, sera aussi une source de paix pour les autres. Et ça se verra dans son comportement. Vous savez, une personne qui est paisible, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont bien calmes, bien paisibles. Ce n'est peut-être pas forcément le cas pour moi. Mais il y a un commentateur biblique qui disait que la quiétude constitue aussi une démonstration pratique de l'amour pour les autres. Et si on considère quelqu'un comme le Seigneur Jésus, si on souhaite de manière très objective faire le portrait psychologique de Jésus, même si c'est quelqu'un qui est non-croyant qui veut faire ce portrait, eh bien, il brossera ce portrait de quelqu'un d'extraordinairement paisible, calme, tranquille, soumis, ce qui n'enlève rien à son autorité, hein, parce que des fois, il a dû monter au créneau. Mais, globalement, voilà, notre Seigneur Jésus inspire la confiance. Est-ce qu'il n'était pas un agitateur ou un agité? Et donc, Paul dénonce cette attitude d'agitation dont faisaient preuve les chrétiens thessaloniques. Mais il y avait aussi une deuxième attitude, qui était un certain laisser-aller. Quelques chrétiens avaient tendance à ne plus travailler, à vivre au crochet des autres frères. Et les commentateurs bibliques pensent que cela était en partie dû à la culture grecque, selon laquelle le travail manuel était méprisable, était réservé pour les esclaves. Et Paul n'est pas d'accord avec ce comportement. Et d'ailleurs, il avait donné l'exemple en travaillant de ses propres mains, lorsqu'il était à Thessalonique. Et il encourage les Thessaloniciens à être conscients aussi de l'importance de la dignité que confère le travail, notamment le travail manuel. Et il conclut en affirmant qu'une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Donc, notre comportement de tous les jours a une implication, impacte les non-chrétiens. Ça me fait penser à ce chrétien qui affirmait connaître la date du retour de Christ. Et donc, il faisait la promotion de cette date auprès de gens. Et puis, beaucoup de chrétiens se sont ralliés à cette thèse. Et à l'approche de la date fatidique présumée, beaucoup de ceux qui avaient adhéré à ces thèses n'ont plus rien fait. Démissionné de leur travail, n'ont plus envoyé les enfants à l'école, n'ont plus payé les factures, rien du tout. C'était un véritable désastre sur le plan du témoignage, et notamment au niveau des non-chrétiens, qui vont se poser les questions, mais qu'est-ce que c'est que ces personnes, je ne sais pas comment c'était, comment vous qualifiez, irresponsables. Frères et sœurs, quel témoignage donnons-nous envers ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu? Est-ce que nous reflétons l'image de quelqu'un qui est paisible et qui a un comportement sobre et travailleur? En nous conduisant ainsi, dit la parole, nous ferons honneur à notre statut de chrétien et nous gagnerons le respect des non-chrétiens. Donc je vais conclure ce message en rappelant donc cette triple responsabilité du chrétien envers Dieu sur le plan moral, envers les frères dans la foi, aussi envers les non-chrétiens au niveau de notre témoignage. Mais tout commence avant tout par l'obéissance à la volonté de Dieu, le désir de mener une vie sainte. Car c'est à cela que nous sommes appelés. C'est cela la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est vrai, c'est avoir compris l'œuvre de Jésus dans notre vie, d'avoir reçu le pardon des péchés, mais ça doit l'inciter à vivre une vie qui glorifie Dieu, d'avoir un comportement qui plaît à Dieu. Le chrétien ne peut pas mener une vie chrétienne en même temps qu'une vie mondaine, faire comme tout le monde, en espérant recevoir quelque chose du Seigneur. Soit il choisit de marcher véritablement avec Jésus en mettant en pratique sa parole, soit il s'attache au monde et à ses plaisirs, qui l'éloignent de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste. Il faudrait vraiment avoir des pots de saucisson sur les yeux pour ne pas voir qu'il condamne clairement la débauche. Parce que la débauche est un péché. Et il jugera tout péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est un verset extrêmement important. Il y a toujours une deuxième, j'allais dire un plan B, une deuxième solution, c'est de se repentir de vous. Si vraiment on a dans notre cœur ce désir de plaire à Dieu, c'est vrai, on a pu faire des fautes dans notre vie. On est peut-être même en situation en ce moment où on se dit « Non, je ne suis pas en règle devant Dieu. » Il ne faut pas rester là. Le Seigneur nous appelle vraiment à faire ce pas. Si nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit agit en nous pour que nous puissions faire ce pas supplémentaire de foi en disant « Seigneur, je veux faire ta volonté. » Dans Romains chapitre 6, verset 13, « Puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, par les chrétiens, offrez-vous vous-même à Dieu, mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. » Une fois, le pasteur avait dit, tous les matins, la prière que je fais se trouve dans Romains chapitre 6, verset 13. Tous les matins. Seigneur, je veux offrir à Dieu mes membres ce matin et les mettre à ta disposition comme des armes au service du bien et non pas au service de l'iniquité. Si tant est que quelqu'un aujourd'hui est dans une situation qui n'honore pas Dieu sur le plan moral, il n'est pas trop tard pour prendre ses responsabilités de chrétien devant le Seigneur et de régulariser cette situation sans plus attendre. C'est ce que Dieu veut. Et par contre, ce que le diable veut, c'est que le chrétien relativise le péché. C'est que le chrétien repousse indéfiniment la décision de se réconcilier avec Dieu et avec les hommes. Et la question qui se pose, c'est quelle volonté voulons-nous accomplir? Est-ce la volonté du diable ou est-ce la volonté de Dieu? Et je prie aussi pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas pris cette décision de recevoir le salut. Dans la Bible, Jésus dit quelque chose de très dur par rapport à ces personnes-là. Il dit ce sont des personnes qui ont pour père le diable. C'est dur d'entendre ça. Est-ce que nous voulons être sous l'esclavage du diable? Ou bien nous tourner maintenant vers Dieu? Aujourd'hui, peut-être le jour, pour prendre cette bonne décision, celle de donner sa vie à celui qui a donné sa vie pour nous, à Jésus, qui a versé son sang sur une croix, afin de nous pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Que ce message de ce matin, frères et sœurs, ne soit pas un simple sermon. Comprendrez, voilà, on est bien d'accord, oui, c'est d'accord, pour le principe. Mais sans action derrière, ça ne sert à rien. Est-ce que nous aurons, dans ces cas-là, reçu la parole de Dieu en vain? Et la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Vraiment claire. Si elle n'était pas claire, si elle était ambiguë, à la limite, on pourrait interpréter, on pourrait dire peut-être que c'est pas ci, peut-être que c'est pas ça. Il y en a qui le font, malheureusement. Mais là, elle est claire. On ne peut pas se cacher derrière des excuses comme le fait qu'il faut vivre avec son temps. Des églises ont pris certaines décisions éthiques, regrettables, sous prétexte que il faut vivre avec son temps, il ne faut pas être en marge de la société, il faut être bien vu des autorités. À qui voulons-nous obéir? Aux hommes, au diable ou à Dieu? Telle est la question. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est vrai, parfois, elle dérange, cette parole, parce qu'elle Elle met à nu notre cœur, peut-être notre comportement aussi, Seigneur, et nous rendons compte combien nous sommes petits, tout petits devant toi. Parfois, nous sommes sales aussi devant toi. Nous avons tellement de choses à apprendre encore avec toi. Nous savons une chose, c'est que toi, Seigneur, ce que tu veux, c'est notre sanctification. Tu ne veux pas que nous restions dans une vie médiocre. Tu ne veux pas, Seigneur, que notre foi soit une foi statique. Mais, Seigneur, tu veux que nous vivions selon ta volonté, en obéissant à ta parole, en obéissant, Seigneur, à tes préceptes, en faisant ta volonté, en ayant un comportement qui te plaît. Seigneur, aide-nous, avec ton Esprit Saint, à aller de l'avant, à ne pas nous complaire, Seigneur, dans une situation qui ne te glorifie pas, mais à nous lever, comme l'a fait le fils prodigue. Il s'est levé, qu'il est retourné vers son père, que ce soit vraiment, Seigneur, notre cas aussi, aujourd'hui. Nous t'en prions vraiment, dans le nom de Jésus. Amen. Je tiens à m'excuser, hein, j'ai peut-être été direct dans ce message, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, et j'avais d'ailleurs un peu de crainte, justement, de ne pas être... Il y a certains domaines, des fois, qui sont un peu, on va dire, délicats à aborder.